Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Si la bibliothèque de l'Institut conserve, comme il se doit, des livres savants et peu de livres techniques ou pratiques, elle compte néanmoins dans son fonds et dans ses collections de nombreux livres et documents relatifs à la gastronomie française. On peut s'en étonner en relisant un ancien numéro du journal Le Gourmet, daté du 21 mars 1858, qui affirme que parmi ceux qui mangent mal, on range les musiciens, les danseurs, les chanteurs, les peintres et sculpteurs et la moitié des membres de l'Institut parce qu'il ne suffit pas pour être gourmand d'être astronome, chimiste et d'avoir un habit brodé à 1500 francs. Cette anecdote amusante, je la dois à Mireille Pastoureau, conservateur général directeur de la bibliothèque de l'Institut, qui, fidèle à son habitude, aime régaler ses visiteurs en exposant régulièrement les plus beaux et les plus intéressants volumes de la bibliothèque. Bonjour Mireille Pastoureau.
Bonjour Hélène.
La gastronomie, c'est évidemment un élément du patrimoine français, mais plus spécifiquement du patrimoine littéraire. Et d'ailleurs, dans le document que vous avez rédigé pour cette exposition sur les livres de la gastronomie dans votre fonds de bibliothèque, qu'on peut lire sur le site de l'Institut, on peut le consulter, le lire et l'apprécier. Vous précisez d'emblée qu'au moins deux académiciens contemporains ont pris la gastronomie au sérieux et rédigé des articles.
Exactement, il s'agit de Jean-François Revel de l'Académie française, qui était un fin gastronome et qui a écrit des ouvrages, et notamment Un festin en parole, histoire littéraire de la sensibilité gastronomique, de l'Antiquité à nos jours, et plus récemment, actuellement, Jean-Robert Pitt, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui est président de la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la gastronomie française, sur l'histoire du vin également, et qui était un fervent défenseur de l'inscription de la gastronomie française au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Voilà ce qui a été fait en novembre 2010.
Alors, parmi les trésors enfouis dans votre bibliothèque sur la gastronomie, il y a aussi des livres sur la cuisine, le jardinage, la culture, l'art de la table, parce que c'est la gastronomie pris au sens large, les buffets de fête. Et maintenant, ça fait un grand nombre de livres ou un petit nombre de livres ?
Bon, nous avons près d'un million d'ouvrages, donc ils ne sont pas tous naturellement consacrés à la gastronomie, mais j'étais étonnée de voir dans une bibliothèque savante comme celle de l'Institut combien l'art de la table, tous ces sujets étaient tout de même bien représentés, notamment dans les fonds de l'Académie des sciences. Beaucoup d'ouvrages de botanique, mais de bibliothèques de botanique qui également se sont tournés vers l'alimentation, notamment les progrès, etc. Alors, je vais faire un préalable. Nous entendons par gastronomie la littérature sur l'art de la table, hein, c'est ce terme de gastronomie, mais l'exposition, surtout pour la partie Ancien Régime, a également montré quelques ouvrages de cuisine plus concrets, si je puis dire.
Et même pour l'Ancien Régime, justement, le premier des livres, c'est un livre très technique, justement, qui explique comment on peut faire cuire les aliments. Et parmi les livres de l'Ancien Régime, justement, il y en a un qui est très technique et qui concerne un réchaud.
Oui, c'est une invention de l'époque Louis XIV, 1685, un homme médiéval qui, je pense, était ingénieur, qui a imaginé un réchaud portatif qui devait être très commode, qui devait servir à réchauffer à la fois les plats, à les faire cuire, à réchauffer également les personnes. On pouvait même le mettre dans un confessionnal, disait-il. Ça pouvait servir de chauffe-pied, on pouvait repasser, sécher le linge des dames, des lingères, et servir aux voyageurs, aux gens de guerre, aux personnes d'études qui sont longtemps dans leurs chambres et cabinets.
Voilà, le réchaud qui sert à tout. Alors, on a aussi des livres de parmentier, bien sûr,
oui,
dans votre
bibliothèque. Un très beau fonds, voilà, qui appartient à l'Académie des sciences, qui a été donné par Benjamin de Lesserre, le banquier, fondateur des caisses d'épargne. Et dans cette magnifique bibliothèque de Lesserre, il y a tous les ouvrages de parmentier, recherche sur les végétaux nourrissants, dans lequel il révèle tout l'intérêt de la pomme de terre. Et on voit les préoccupations pour nourrir les personnes en temps de famine, en temps de disette.
Oui, il y a plusieurs ouvrages, justement, qui portent comme
titre. On note ces préoccupations sociales. On est tout à fait à l'époque des Lumières, au XVIIIe siècle. Et Parmentier a également fait un ouvrage qui s'appelle Avis aux bonnes ménagères des villes et des campagnes sur la meilleure manière de faire leur pain. Parce qu'il dit que le pain que les gens font n'est pas bon parce que on n'emploie pas la bonne farine ou on ne la conserve pas d'une bonne façon. Donc il leur donne la méthode de faire du bon pain et du pain qui se conserve. Il faut pas de l'eau trop chaude, il faut pas des levains trop anciens. Je trouve que c'est extrêmement généreux et délicat pour les populations.
Et peut-être pratique pour aujourd'hui car maintenant on refait son pain. Et il y a aussi un livre sur les végétaux nourrissants qui, dans les temps de disette, peuvent remplacer les aliments ordinaires.
Voilà.
C'est le grand... Il était médecin, c'est le grand pharmacien.
Livre. Oui. Exactement, c'est le grand livre qui a lancé la pomme de terre. Mais parmi les végétaux nourrissants, il y avait aussi les marrons d'Inde, on l'a oublié, les glands de diverses racines, et notamment les racines, les jardiniers reconnaîtront, de narcisses, de tulipes sauvages, tous les bulbes que l'on plante en ce moment dans les jardins, qui fleuriront au printemps, et pouvaient servir de nourriture.
Alors, avis, les festins princiers, évidemment, à la fois il y a le côté très social, comme vous le dites, mais il y a aussi des livres qui reflètent les festins
voilà.
d'un autre milieu social.
Exactement, et c'est une catégorie importante de nos bibliothèques, parce qu'il faut voir aussi que le modèle français de la cuisine ou de la gastronomie a longtemps été celui de la cour. Et ça, c'était une caractéristique de la France, c'est-à-dire tout de même une façon de recevoir assez ostentatoire, sophistiquée, avec des plats élaborés. Et si on fait la comparaison avec un pays tout proche comme l'Angleterre, on voit la différence, où le modèle était produit, lui, par une aristocratie rurale, libérale, qui était très proche des gens et qui vivait beaucoup plus simplement et qui n'a toujours pas de nos jours le même mode de cuisine et le même mode de réception que la France. Donc, pour les festins princiers, oui, nous avons des grands livres à planches, des livres de fêtes où on voit tous les festins des sacres ou des fêtes qui étaient donnés à l'occasion des grands événements de la cour.
Et aussi les plans de table à la cour de Louis XIV. Comme ça, on sait où les princes et les princesses devaient s'asseoir à côté du roi ou un peu loin du roi.
Oui, exactement. J'ai retrouvé un croquis figuré parce que je me demandais si c'était comme de nos jours, si on alternait hommes et femmes. Eh bien, pas du tout. Le roi était entouré de son frère à sa gauche,
monsieur
oui. et à sa droite du grand dauphin, l'héritier du trône, monseigneur. Alors après, il pouvait y avoir des dames, mais voilà, il y avait quand même la primauté de la gent masculine.
Il y a deux grandes figure évidemment qui domine la littérature de la gastronomie, c'est Grimaud de la Reynière et Brillat Savarin. Alors on a déjà dans Canal Académie des émissions sur ces deux grands personnages. Que peut-on en dire? L'un des deux a introduit le mot gastronomie d'ailleurs.
Oui, alors vous savez sans doute ça mieux que moi. Oui, c'est Grimaud de la Reynière qu'on qualifie d'inventeur de la littérature gourmande, qui était un peu un polygraphe. Et c'est lui qui a vu tout cet intérêt de conseiller des bonnes tables. On est à l'époque où les restaurants se développent naturellement. Il faut voir que toute cette gastronomie s'est développée. Enfin, je schématise beaucoup, mais parce qu'à la Révolution, les nobles ont émigré. Leurs cuisiniers se sont trouvés sans travail et beaucoup de cuisiniers de famille noble ont ouvert des restaurants.
Absolument, voilà. C'était l'époque.
Oui, c'est l'époque, voilà.
Alors, on trouve aussi un amusant auteur que je ne connaissais pas, Charles-Joseph Colnet Duravel, qui, lui, a fait une biographie des auteurs morts de faim.
Oui.
C'était aussi amusant,
voilà, oui.
Certainement. Ça ne manquait pas d'humour. Alors, Brillat Savarin, on connaît aussi avec sa physiologie du goût. On va peut-être passer un petit peu rapidement sur lui.
Ce qui est amusant, c'est que vous savez que nous avons un fonds Balzac très important à la bibliothèque qui vient du collectionneur belge Spelberg de Lovenjoul. Et nous exposons un passage de Balzac sur Brillat Savarin, précisément. Et Balzac a écrit La physionomie du mariage en imitation de la physiologie du goût de Brillat Savarin, dont il admirait énormément les qualités de style. Et je signale aussi que nous exposons le service à thé de Balzac, qui est dans nos réserves, qui n'est pratiquement jamais montré. Enfin, c'est ce qu'il en reste, seulement quelques pièces. Un service à thé en porcelaine de Chine. Nous montrons également des contes de Balzac, les contes de son épicier, qui montrent que Balzac achetait, on le sait, du café, du thé, des pruneaux, des chandelles, etc.
Un qui nous a beaucoup amusé aussi avec la cuisine et les bons aliments, c'est Eugène Labiche.
Oui, alors j'ai aussi un petit faible pour Labiche. Bon, il met en scène la bourgeoisie, donc toutes ces personnes se reçoivent et dans plusieurs de ses pièces, on fait naturellement allusion aux manières de table. Mais dans la pièce qui s'appelle La poudre aux yeux, qui met en scène deux familles de la bourgeoisie et qui ne se connaissent pas parce que leurs enfants se sont rencontrés et c'est le repas de fiançailles. Et la famille qui reçoit a ajouté des truffes à absolument tous les plats du repas.
Et alors, il y a la carpe aux truffes.
Oui, exactement.
Le filet de bœuf aux truffes, le faisan doré de la Chine aux truffes et les truffes à la Lucullus en surprise. On suppose que c'est le dessert.
Voilà, oui.
Alors, la gastronomie aussi donne l'occasion aux caricaturistes et aux dessinateurs d'exercer leur talent. Et là, vous avez beaucoup de documents, j'ai l'impression.
Oui, beaucoup de documents qui n'étaient pas bien connus parce que, bon, on ne pensait pas beaucoup à les regarder. Et oui, des illustrations non seulement bon, de Granville, Gavarni, Daumier, les caricatures des Parisiens, de toutes les personnes de la société, mais également, c'est assez amusant, des déformations de légumes, les légumes de venant source d'inspiration et toutes sortes de gravures qui montrent l'évolution et l'invasion un petit peu de la vie courante par les manières de table, par l'alimentation, le souci des nouveaux produits. Et on a l'impression que c'est toute la France qui s'intéresse davantage à ce qu'elle a dans son assiette et à la façon de le préparer.
Alors, parmi ces caricatures, on a tous en tête tout de même celle de Auguste Thiers qui porte une énorme poire et qui, en fait, est la tête de Louis-Philippe, par
exactement.
Exemple. Vous avez ça aussi comme
nous
document.
Nous avons ça, voilà, c'est très amusant. Et sur une étagère, derrière, il y a beaucoup de petites poires qui sont les fils du souverain, les héritiers du trône, rangés sagement sur l'étagère.
Alors, il y a une chose que j'ai apprise, c'est ce qu'est un viveur. Alors, il y avait des soupeurs et il y avait des viveurs. Alors, qu'est-ce qu'un viveur ?
Oui, donc, c'est dans ces encyclopédies du 19e siècle que l'on voit tous ces personnages. Donc, le mot viveur daterait de 1825 environ. Et c'est un personnage qui passe ses soirées à souper entre hommes. Et le texte dit qu'il bannit les femmes de ses soirées entre viveurs, car les femmes n'entendent rien au souper. C'est assez intéressant de voir combien la gastronomie, au départ, est une affaire d'hommes. Et il pense qu'il faut l'apprécier entre hommes.
Alors, il fait la différence entre eux. Le souper, ce repas de viveur, se perd. Il le déplore, évidemment. On ne le comprend plus. Le dîner a tué le souper.
Oui.
À Vice, il faudrait peut-être rétablir les soupers. Alors, évidemment, il y a aussi des drôleries végétales. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire des dessins qui sont à la fois anthropomorphes et végétaux. Et vous avez trouvé ça dans les mémoires de Cucurbitus Ier.
Voilà, c'est par un dessinateur qui s'appelait Amédée Varin. L'ouvrage date de 1861. Et ce sont des planches gravées sur acier et coloriées qui sont tout à fait curieuses, un petit peu fantastiques même, mais d'inspiration végétale.
Absolument, ça reprend un peu Archimboldo dans l'esprit en tout cas.
Oui.
Alors, il y a parmi aussi les bibliophiles qui collectionnaient alors les ouvrages de gastronomie, un certain Georges Vicaire. Qui était-ce ?
Alors, Georges Vicaire, pour les bibliothécaires, c'est un peu une gloire. Donc, pour le situer, il est né en 1853 et mort en 1921. Et c'est une gloire parce qu'il a écrit un manuel des livres à figures du 19e siècle, donc de livres que l'on collectionne. Il a écrit une bibliographie gastronomique en 1890, qui est encore un peu un modèle du genre, qui reste un ouvrage de référence. Et pour nous, troisième avantage, il a été le conservateur de cette collection Spellberg de Löwenjoul dont je vous parlais. Très beau don fait à l'Institut au début du 20e siècle. Et j'ai découvert que Georges Vicaire avait comme ex-libris une petite gravure sur laquelle il s'est fait représenter lui-même en cuisinier, avec sa barbe, on le reconnaît très bien. Donc c'est son ex-libris, donc il affiche clairement ses goûts. Et puis en lisant un petit peu diverses choses, j'ai vu qu'il aimait cuisiner aussi à ses heures. Et notamment, je rapporte un dîner tout à fait extraordinaire qu'il avait conçu à l'ancienne. Il avait cuisiné un pan dans lequel se trouvait une noix, dans lequel se trouvait un dindon, dans lequel se trouvait encore une volaille. Mais parallèlement, Madame Vicaire avait préparé un gigot au cas où le plat de son mari n'aurait pas été réussi.
Prudence, prudence. Alors, vous avez effectivement beaucoup d'ouvrages, apparemment, de ce vicaire. Et alors aussi, vous avez toute cette collection extraordinaire du Vendredi Saint chez Sainte-Beuve. Alors, racontez-nous cette
histoire. Oui, c'est un petit épisode que j'ai découvert à cette occasion. Eh bien, en 1868, le 10 avril, jour du Vendredi Saint, Sainte-Beuve a réuni un assez grand nombre d'amis pour un dîner qui, naturellement, n'était pas maigre. Et tous ces gens-là étaient des libres penseurs. La date n'était pas choisie au hasard. Et le lendemain, les journaux conservateurs, naturellement, ont beaucoup protesté contre cette offense faite à la religion catholique. Et il se trouve que notre collectionneur, Spellberg de Löwenjoul, s'est procuré toutes les lettres originales. On a tout le dossier original venant des archives de Sainte-Beuve. toutes les lettres des convives, et non seulement des convives, mais aussi de ceux qui n'étaient pas invités et qui auraient aimé l'être pour faire partie des protestataires.
Alors, qui était invité?
Alors, donc, c'est le prince Napoléon qui avait un petit peu choisi les convives. Et il y avait, parmi les gens très connus, Gustave Flaubert, Ernest Renan, il y avait Hippolyte Taine, il y avait Maurice Berthelot, Edmond Habou, qui était plus tard membre de l'Académie française.
Une femme quand même?
Alors, c'était la bonne amie du prince Napoléon, Madame de Tourbet, voilà, qui écrit des lettres assez longues, donc qui nous raconte un petit peu les choses. Et alors, après coup, Sainte-Beuve a voulu atténuer sa responsabilité, et on cite toujours cette phrase qu'il aurait dite, « Voilà bien du bruit pour une omelette au lard ». Mais en réalité, nous avons le menu qui était tout de même faisant truffé, filet de bœuf sauce madère, donc c'était un peu plus qu'une omelette.
C'était
pour un
vraie provocation.
Voilà, voilà, buisson d'écrevisse, voilà. Voilà, c'était tout
d'ailleurs,
ce qui allait bien.
Le prince Napoléon le dit dans la lettre que vous exposez, je l'ai lue. Il faut bien fêter les fêtes catholiques entre philosophes et libres penseurs à notre manière. Voilà, provocation. Alors, vous avez aussi quelque chose relatif à la dictée de Mérimée. Ça m'a surprise
par rapport à la
gastronomie.
Oui, mais c'est toute une époque. Et j'ai découvert que Mérimée était un fin gastronome, qu'il était membre d'une société de bibliophiles dont il organisait le dîner annuel. Et il y a un paragraphe dans cette dictée qui est le dîner à Sainte Adresse, qui est très gastronomique, puisque tout le monde se rappelle les cuisseaux de veau, les cuisseaux de chevreuil.
Et tout le monde fait des fautes.
Tout le monde fait des fautes. Voilà.
Et alors, sur Canal Académie, on trouve cette dictée. On peut s'y exercer.
Ça, c'est merveilleux. C'est très intéressant. Mais j'ai découvert que le paragraphe sur le dîner avait été ajouté après coup, vers 1900 à peu près, alors que Mérimée est mort en 1870. Donc, j'étais un petit peu déçue, mais il aurait pu l'écrire, certainement. Mais on n'est pas certain que ce paragraphe-là soit vraiment de la plume de Mérimée.
Au XIXe siècle, il y avait beaucoup de journaux, je suppose aussi. Vous avez des journaux de l'époque gastronomique?
Alors précisément, on a une très belle collection et très rare de journaux gastronomiques. Dans cette collection Spellberg de Lovenjoul dont je vous parlais, dont Vicaire a été le conservateur, et je pense qu'il n'est pas étranger justement à la réunion de tous ces rares journaux qui n'ont pas souvent vécu très longtemps. Notamment, on en a un très rare qui s'appelle Le Gastronome, qui a été fondé en 1830 par Paul Lacroix, qui avait un surnom, le bibliophile Jacob, donc qui est très connu dans le domaine de l'histoire du livre au XIXe siècle. Et je rapporte des citations où Paul Lacroix explique que son journal a été tué par la Révolution de 1848. Voilà, qui n'avait plus autant d'abonnés après et qui n'a pas pu continuer. Alors, ce qui était très intéressant dans ce journal, c'est son format, parce que le rédacteur en chef lui a intentionnellement donné la forme d'une carte de restaurant. Il est oblong, vertical, et c'est intentionnel. Il voulait que son journal ressemble à une carte de restaurant. C'est très rare. Nous avons les épreuves de Paul Lacroix lui-même. Possédées par Paul Lacroix lui-même, nous avons un exemplaire unique.
Alors ça, ce sont vraiment des grandes richesses. Est-ce qu'il y a aussi des livres plus récents, alors moins historiques, j'allais dire, et dans une littérature plus contemporaine?
J'avais l'embarras du choix, naturellement. J'ai dû supprimer énormément de choses. J'étais amusée de voir, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1941, un ouvrage de Madame Francisque Gay. Francisque Gay était un homme politique, catholique, éditeur aussi. Et son épouse a écrit un livre « Comment se nourrir au temps des restrictions ?» Principes généraux et recettes, 23e édition, 1941. Et bon, c'est assez émouvant de voir qu'un tel livre est conservé dans notre bibliothèque, a certainement été utilisé, je pense, par des académiciens en temps de guerre, a été lu, je pense,
à l'époque. 23 éditions, sûrement, parce que ça montre son succès, en effet.
Alors autrement, bien sûr, on a tous les ouvrages des gastronomes, Pomiane, Ali Bab, Escoffier, tous ces auteurs-là sont présents.
Et Kurnonsky, évidemment, aussi.
Kurnonsky, voilà, qui était surnommé prince des gastronomes, tout à fait. Oui, tout à fait. Il avait créé l'Académie des gastronomes en 1930 sur le modèle de l'Académie française. Et 40 gastronomes siégeaient, et lui s'était réservé le fauteuil de Brillat-Savarin.
Académie qui existe toujours, je crois. Alors, vous avez aussi ce livre de Claude Mauriac, qui est donc le fils de François Mauriac.
Exactement, oui, tout à fait. Le Dîner en ville, c'est un roman publié en 1959 qui a obtenu le prix Médicis et dans lequel l'auteur a essayé de modifier les règles romanesques. Donc, le roman est uniquement le récit d'un repas. Il commence quand les 8 convives se mettent à table, il s'achève quand ils se lèvent de table. Et pour aider à la lecture du roman, on nous donne un petit carton qui est conservé avec le plan de table que nous devons consulter à chaque page pour pouvoir suivre le roman. C'est une curiosité.
Merci Mireille Passoureau, vous nous avez comme d'habitude charmés en nous parlant de tous ces livres qui sont cette fois-ci plutôt amusants, même s'ils sont sérieux, ils sont tout de même très plaisants à découvrir. Donc sur le site internet de la bibliothèque de l'Institut, on peut lire le document que vous avez préparé et puis dans l'émission de Canal Académie, nous donnerons un résumé comme d'habitude car votre document fait tout de même une vingtaine de pages. Bien, merci beaucoup Mireille et à bientôt pour une autre exposition. Ou une autre occasion.
Avec grand plaisir. Au revoir.
Au revoir.